55 Milliarden Kubikmeter Gas soll die Pipeline Nord Stream 2 künftig von Russland nach Deutschland pumpen. 26 Millionen Haushalte in Europa sollen damit versorgt werden. Es ist ein Mammutprojekt, das rund 8 Milliarden Euro kostet und immer wieder kontrovers diskutiert wird.
Mammutprojekt est controverse. C'est un projet mammouth. C'est une bataille géopolitique. C'est un bras de fer économique. Ce matin, zoom sur un tuyau à 10 milliards d'euros. Nord Stream 2, le jumeau de Nord Stream 1, vient d'être achevé et il doit transporter du gaz de la Russie vers l'Allemagne en passant sous la mer Baltique. L'idée, c'est de contourner le sol ukrainien. Dans ce tube, qui paraît lointain, il y a quand même deux questions pour nous. Celle de l'indépendance énergétique et celle des prix. Alors, ce tuyau n'est-il qu'un tuyau? Ou bien une arme aux mains des Russes? On se souvient encore des guerres du gaz au tournant des années 2000. Nord Stream 2, non, ce n'est que du commerce, répètent Moscou et Berlin, mais la querelle n'est pas réglée avec Kiev, qui dénonce un projet politique et qui, accessoirement, voit s'évanouir 1 milliard d'euros de frais de transit. Alors, question 2, l'argent, nos factures, est-ce que cette énorme capacité supplémentaire fera baisser les prix? Eh bien, c'est encore la question. Et la réponse, elle va appartenir à Moscou, qui assure 45% des importations européennes et qui n'est pas pour rien aujourd'hui dans la flambée des prix. Enfin, ce matin, dernier élément du dossier, il y a encore du suspense, oui, à un bout du tuyau. Côté allemand, les Verts sont contre Nord Stream 2 et les élections en Allemagne, c'est dans 15 jours. Donc, politique, puissance et argent, le tuyau est raccordé, mais le feuilleton n'est pas tout à fait terminé.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, willkommen, c'est le Magecho, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Ce matin, focus sur les cyberattaques, c'est le programme. Des hôpitaux aux mairies, des supermarchés aux compagnies aériennes, ça se passe au quotidien, aux quatre coins de la planète, et les Français ne sont pas épargnés. Quels sont les stratagèmes des pirates du numérique? Comment se prémunir? Comment réagir? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Nous en parlerons avec notre invité, c'est l'un des leaders mondiaux du stockage de données, et c'est l'espoir européen de ce secteur. Face aux géants américains et chinois. Interview du directeur général d'OVH Cloud, Michel Paulin, ce sera dans moins de 20 minutes. Au programme également, le monde du travail et ses coulisses, ça sera avec Madame Vieux-Boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
On parle d'absentéisme ce matin, quelle drôle de chose pour une rentrée.
Beaucoup d'études sur le sujet, l'absentéisme est en hausse. Et je vous explique pourquoi.
Alors, on se donne rendez-vous juste avant 10h. Mais tout de suite, nous avons un autre rendez-vous, c'est avec les débatteurs. Ils sont là, le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorne. Bonjour Laurent.
Guten Tag, Alexandra.
Vous êtes plus fort que moi ce jeu-là, je le sais bien. Et l'éditorialiste d'Alternatives économiques, Christian Chavagneux. Hola
Christian. Buongiorno.
Voilà, pas mal. Alors, toute la semaine, on a eu des bonnes nouvelles économiques, je dirais encore. Et puis, toujours cette promesse que les perfusions, le quoi qu'il en coûte, les taux bas grâce à la BCE, la Banque Centrale Européenne, ces perfusions seront retirées en douceur. La promesse qu'on ne va pas s'aborder la reprise en essayant d'éponger les déficits trop vite. Est-ce que ces discours reflètent bien ce qui nous attend? Est-ce que le retour à la normale ne risque pas d'être un peu plus brutal que ce que l'on entend? Ce matin, vous, les débatteurs, vous avez des doutes sur cette petite musique euphorique.
Un objectif nouveau, atteindre à la fin de l'année 2021 le même niveau d'activité économique que celui que nous avions avant crise.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
On a déjà un niveau d'investissement supérieur à celui que nous avions avant la crise. Nous avons un niveau de chômage plus faible que celui que nous avions avant la crise. Nous avons une consommation plus importante qu'en 2019. Donc la croissance est bien orientée, c'est déjà une très belle réussite.
Voici une excellente nouvelle, elle a été dévoilée hier par l'INSEE. Les prévisions de croissance pour 2021, cette année donc, ont encore été rehaussées 6,25%. Et bien simple, on se croirait revenu au temps euphorique des 30 glorieuses.
Les comptes publics vont mécaniquement s'améliorer grâce à la croissance, moins de déficit. On va présenter un budget qui annonce un déficit à 4,8% du PIB.
Moi je me pose une question, alors certes, le problème c'est que c'est jamais le moment.
Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens.
On a l'impression que c'est jamais le bon moment pour serrer la vis, c'est toujours le point aveugle de toutes les politiques. Et quel candidat, puisque nous sommes dans une présidentielle déjà, quel candidat aujourd'hui est capable de promettre une reprise en main des finances publiques? Personne. Cette avalanche d'argent fait que les électeurs peuvent plus entendre un discours de rigueur.
Alors, si les perspectives de croissance s'améliorent, cela signifie-t-il pour autant que la Banque Centrale Européenne va réduire son soutien massif à l'économie?
The European Central Bank decided to slow the pace of its pandemic emergency purchasing program.
The lady isn't tapering.
La BCE ne fait pas de tapering.
Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne.
Ce que nous faisons, c'est que nous recalibrons le PEP. C'était une décision unanime à tous les égards. Le rythme du calibrage, le niveau légèrement plus bas, tout a été décidé à l'unanimité.
Le mot qu'elle utilise, le mot tapering,
Natasha Valla,
il est extrêmement marqué dans l'histoire des banques centrales. En 2013, lorsque la Réserve fédérale a eu un langage un petit peu maladroit,
économiste, professeur à Sciences Po,
ça a fait une déflagration dans les marchés. Donc c'est vraiment ça que les banques centrales aujourd'hui souhaitent éviter. Pourquoi ? Parce que la reprise est assise sur des conditions de financement stables et amples. Donc, pour préserver ces conditions de financement, il faut que les taux de marché ne bougent pas, il faut que la perception de la politique monétaire future ne soit pas trop volatile. Ce qui est important, c'est le poids des mots.
Le poids des mots. Et à Bercy, comme à la Banque Centrale Européenne, ils sont apaisants, ces mots, ils sont choisis avec soin. Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Pourquoi tirer un signal d'alarme ce matin?
Parce que je pense que nous connaissons aujourd'hui les prémices d'un grand retournement des politiques économiques. Et dans ce grand retournement qui va se passer des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en Europe, l'Europe va subir des conséquences très dommageables pour l'activité et pour l'emploi.
Laurent Bigorne, vous aussi, les mots ne vous contentent pas? Vous voyez un grand retournement à l'œuvre?
Il faut se poser la question de savoir si on est dans un scénario comme on a connu en 2008 ou pas. 2008, quand la crise est arrivée, on a un peu cassé les politiques publiques et économiques traditionnelles qui étaient des publiques qui consistaient à dire il faut aller à l'équilibre budgétaire, puisqu'on a fait des plans évidemment de soutien à l'activité, des politiques monétaires du point de vue des banques centrales qui étaient non conventionnelles. Et puis, quand on est sorti du cœur de la crise, on a vu qu'il y avait un retour, en tout cas en Europe ça a été un grand débat, pour revenir à ces politiques d'antan, ce qui pouvait évidemment aussi se justifier du point de vue de ceux qui émettaient ce discours, mais on a cassé la reprise dans un certain nombre de pays, pour d'ailleurs des raisons différentes. Soit parce que on a cassé la dépense publique dans certains États, soit parce qu'en France, par exemple, on a fait beaucoup de fiscalité. Donc la question de la sortie, évidemment, de la période dans laquelle on est, il faudra bien en sortir un jour, est une question extraordinairement délicate, et c'est une question aussi, je trouve, assez démocratique, qui mérite d'être posée. Il y a des élections en Allemagne, il y en a bientôt en France, et il ne faut pas que ceux qui font ces politiques économiques, par volonté de prudence qu'on peut comprendre vis-à-vis des marchés, par volonté de prudence vis-à-vis des populations, cachent les vrais termes du débat.
Alors, cache justement ce qu'il y a dans le débat. Qu'est-ce qu'il y a dans... Si je traduis plus encore ce que vient de dire Laurent, Christian, vous pensez qu'on va reparler très vite d'augmentation d'impôts, d'économies dans les budgets et puis de taux d'intérêt plus élevés pour ceux qui veulent acheter un appartement, par exemple?
De taux d'intérêt plus élevés, pas tout de suite. Par contre, d'austérité budgétaire, oui. Pourquoi?
Vous prononcez le mot austérité.
Je prononce le mot austérité budgétaire et je vais vous le démontrer.
Je vois Laurent qui fait nom de la tête.
Oui. Ce qu'on a aujourd'hui, le débat en France, il est caractérisé par 2022. Le gouvernement communique uniquement sur l'année 2022, une année électorale. La dette va rester assez élevée. On est passé de 97,5% du PIB pour la dette à cause de la crise. On est passé à 116%. Le gouvernement nous dit en 2022, ce sera 114%. Donc, voyons, on va faire un gros effort pour réduire cette dette. Pas de souci. Moi, 2022 ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est après 2022, c'est-à-dire le quinquennat 2022-2027 pour le prochain président. Et là, comme tous les pays, la France, juste avant l'été, a envoyé son programme de stabilité budgétaire à la Commission européenne. Qu'est-ce que je veux faire dans les 5 prochaines années? Et bien évidemment, c'est qu'est-ce que ferait Emmanuel Macron s'il était réélu? Et là, qu'est-ce que vous voyez? D'habitude, nous, on regarde, on parle souvent du solde budgétaire, les recettes moins les dépenses, d'accord? Plus intéressant, parce que le gouvernement, il détermine pas les taux d'intérêt sur la dette publique. Donc on a le solde budgétaire que les économistes appellent primaire, c'est-à-dire hors remboursement des intérêts de la dette. Mais c'est pas ça qui est intéressant, parce que si on veut vraiment savoir ce que veut faire le gouvernement sur le plan budgétaire, il faut prendre le solde budgétaire, hormis le paiement de la dette, et en dehors des effets de la conjoncture. Parce que si la conjoncture se dégrade, évidemment, on dépense plus. Si la conjoncture va mieux, on dépense moins. Donc, ce que les économistes appellent le solde structurel hors remboursement de la dette. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous dit le gouvernement? Il nous dit, en 2022, ce solde, il est à négatif, c'est un déficit de 3,6% du PIB, et en 2027, il sera à 1%. Une division par plus de 3. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous reprenez quelques petits tableaux au-dessus, et là, Moi, je suis tombé des nues en regardant ce document hier. Vous prenez la dépense publique française, d'accord ? La dépense publique française, eh bien, elle va perdre plus de 3 points de PIB en 5 ans. J'ai regardé les stats de
l'INSEE. 1 point de PIB, ça fait 3 milliards.
3 points de PIB. Hein. Le PIB, c'est 2500 milliards. Donc, voilà,
24-25 milliards.
Voilà, 24-25.
Et là, j'ai regardé les stats de l'INSEE depuis 1960. Aucun gouvernement n'a fait ça. C'est une réduction de la masse des dépenses publiques comme on n'en a jamais connue. Je vous explique juste quand même pourquoi. Il y a 3 raisons. 1, moins d'investissements publics. 2, moins de fonctionnaires. Et malheureusement, 3, moins de protection sociale. Voilà ce que nous promet le prochain quinquennat. C'est moins de fonctionnaires, moins de protection sociale et moins d'investissement public. Et c'est dans les chiffres du gouvernement.
Et c'est là où vous placez le mot austérité. Exactement. Avec lequel vous n'êtes pas d'accord, Laurent Bigorgne.
On n'est pas du tout dans une situation pré-austéritaire ou austéritaire en France. Et on le sait tous, il n'y a qu'à regarder les chiffres effectivement qui sont ceux de la dette et du déficit. J'ajoute que quand on regarde la préparation du projet de loi de finances 2022, puisqu'on est dans la saison budgétaire, avec les incidences et nombre porté qu'il va avoir sur les années qui viennent. Augmentation des dépenses de la sécurité sociale à hauteur de 12 milliards l'année qui vient. Augmentation des dépenses des ministères à hauteur de 11 milliards. Il faut qu'on ait en tête que en 2009, année post-crise, on dépensait beaucoup, on était à 7 ou 8 milliards. Et que quand on regarde les années précédentes, par rapport à 19, 18, on était sur des augmentations des dépenses des ministères de l'ordre de 6 à 7 milliards. Donc on est sur un doublement en 22. Il y en a pour tout le monde. Défense, justice, recherche, police, éducation. Dépenses fiscales en hausse.
Donc vous êtes en train de dire, non, là on laisse filer la dépense.
C'est ça, on est en train de laisser totalement filer la dépense, d'autant qu'il y a des choses qui sont pas comptabilisées à date. On a eu des annonces sur Marseille, il y a un Beauvau de la sécurité qui arrive la semaine prochaine, on a un revenu d'engagement pour les jeunes, 1 ou 2 milliards, on sait pas bien, et un plan d'investissement qui arrive, dont on nous dit qu'il pourrait être de 30 milliards pour les années qui viennent. Donc il y a, pour l'instant, pour moi, une dichotomie entre ce qui est dit au niveau européen et ce qui est pratiqué sur la scène française. Et c'est pour ça que je dis que cette dichotomie, cette ambiguïté, il va bien falloir naguever.
Et c'est là où Christian dit, à partir de 2023, vous allez bien voir, ça va être tout à fait levé.
Il n'y a aucune ambiguïté. J'ai bien dit dès le début que j'avais aucune inquiétude pour 2022. Donc 2022, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Laurent, sauf que ça commence après, et après l'élection présidentielle, donc, bien évidemment.
On n'est absolument pas dans une crise sanitaire. Et je reviens à ce qu'a dit quelqu'un que vous avez invité il n'y a pas si longtemps, Alexandra, à ce micro, qui est François Vigouroux de Gagaud, gouverneur de la Banque de France. Je pense, François Vigouroux de Gagaud dit quelque chose. Il faut faire attention à ne pas faire reposer notre stratégie de politique publique sur une seule chose, qui est le maintien des taux d'intérêt bas. Et je pense que c'est un point dont on va discuter ce matin.
On va y aller.
Penser que les taux d'intérêt vont rester bas, c'est une folie. Et du moment où ils vont redémarrer, la charge de la dette va rendre effectivement le poids de la dépense publique et de la dette passée absolument inassumable en France.
Juste un mot, François Villeroy de Gallo, quand il est venu ici, il a dit il faut stabiliser les dépenses publiques.
Limiter leur croissance.
Limiter leur croissance. Et lui a demandé, je l'ai interviewé 3 fois sur le sujet, vous pouvez retrouver l'interview sur le site d'Alternative Économique, stabiliser le poids des dépenses publiques dans le PIB. Là, ce que nous promet le gouvernement sur 23-27, c'est une diminution historique comme on n'en a jamais connu dans l'histoire économique.
Christian, pose du droit de Gagaud, vous disiez pourquoi les auditeurs et les ordres de grandeur. On est à 115 points de dette. Ils proposent qu'on vienne à 105 dans 10 ans. C'est pas de l'austérité, ça. Il nous dit juste qu'il faut limiter la croissance des publics à 0,5% par an en moyenne, contre 1,1% sur la dernière décennie. On doit pouvoir y arriver.
Je voudrais qu'on en vienne, parce que cette dette, c'est intéressant. La question, elle va se poser. Donc, à partir de 2023, on va mettre les choses, on va sortir de l'ambiguïté. On va savoir, on va avoir la dette sur la table.
C'est pas dans la campagne électorale. C'est à ça que ça sert.
Vous avez raison, c'est à ça que ça sert. On posera les questions. Cette charge de la dette, ça dépend des taux. Et là, la BCE nous dit, Christine Lagarde, on l'a entendu, Christian. La dame ne va pas faire de ta prime. Ça veut dire, je vais pas fermer le robinet tout de suite. Ça va pas être brutal. Vous allez voir, on y va doucement. Et vous ne la croyez pas?
Si, bien sûr. Je crois bien que la Banque Centrale Européenne va fermer le robinet doucement. Mais ça fait, aux États-Unis depuis 2009, en Europe depuis 2015, que les banques centrales mettent de l'argent, et de l'argent, et de l'argent, et de l'argent. Là, ce que nous a dit déjà la Banque d'Angleterre dès le mois de mai, je vais fermer le robinet doucement. Ce que nous a dit Jerome Powell, le patron de la Banque Centrale Américaine, je vais fermer le robinet dans les semaines qui viennent.
À partir de décembre.
Et ce que nous a dit, novembre, décembre, on ne sait pas trop. Ce que nous a dit Christine Lagarde, c'est ne vous inquiétez pas, je vais fermer le robinet, mais pas tout de suite et doucement. Donc toutes les banques centrales vont le faire doucement.
Mais donc
les taux vont monter. Anticipations déjà. Regardez, le Financial Times nous a dit hier, on a demandé à tous les économistes qu'est-ce qu'ils pensaient, une petite augmentation des taux d'intérêt l'année prochaine. Au niveau européen, une petite augmentation des taux nets. Dans les anticipations, c'est déjà inscrit, on retourne les politique monétaire.
Les taux vont monter.
Les taux à 10 ans. Pas tout de suite.
Les taux à 10 ans, il y a déjà une tension sur les taux des obligations, les taux obligataires à 10 ans pour les États. On voit bien, la France est plutôt repassée en territoire positif. Et donc, il y a des tensions. Il y a des tensions aussi au sein de la BCE. C'est-à-dire qu'en juillet, il y a eu toute une discussion sur la stratégie monétaire de la banque et notamment une discussion sur l'objectif d'inflation. Et Christine Lagarde est parvenue à faire qu'on considère que cet objectif de 2%, qui est l'objectif de la Banque centrale, ne soit pas vécu comme un plafond, mais qu'on puisse le dépasser. Ça a créé des tensions, et ces tensions, il va bien falloir qu'elles se dénouent à un moment ou à un autre. Il va y avoir des débats en décembre à la BCE qu'il faudra suivre, mais effectivement, on peut être sur une anticipation de remontée des taux, et c'est pour ça que je dis que la situation budgétaire en France est préoccupante.
Moi, je dis qu'on va avoir, en 2023, une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe. Et à côté de ça, on va avoir de l'austérité en France et en Europe. À l'inverse, aux États-Unis, 3500 milliards de dépenses supplémentaires. Le budget va compenser la monnaie. En Europe, le budget et la monnaie vont aller dans le même sens. Celle de l'austérité, celle de la destruction de l'emploi et de l'activité.
Ouf, tu sens les larmes. Ok, compris, Christian. Alors, le mot de la fin, on écoute, bien sûr.
Moi, j'appellerais pas ça de l'austérité. Il y a un moment ou un autre, on ne peut pas rester à des niveaux de dépenses publiques qui sont ceux d'aujourd'hui. Et donc, il va bien falloir revenir à une forme de raison budgétaire, et on peut trouver des équilibres qui ne soient pas du sang et des larmes justement, mais il faut aussi admettre qu'on a besoin de revenir, j'allais dire, dans des terrains plus conventionnels s'agissant du budget. C'est pas possible d'être à 60-65% de dépenses publiques, ça n'a pas de rationalité.
Et vous avez raison, on va mettre ça sur la table pendant la campagne électorale, évidemment, c'est le bon moment. Alors Christian, Laurent, pendant ce temps, l'économie comme elle tourne complètement ailleurs. Ce matin, si vous aimez les jeux vidéo, vous nous suivez parce qu'on part en Chine. C'est un festival linguistique ce matin. Bonjour Stéphane Pambrin.
Bonjour.
Vous êtes correspondant de France Inter en Chine et Pékin continue sa campagne de rectification. Je cite, sa lutte contre l'expansion désordonnée du capital. En clair, après le showbiz, après l'éducation, les régulateurs sont en train de s'attaquer aux jeux vidéo avec un message, en gros, le profit, ça suffit.
Oui, et c'est un vrai changement de paradigme pour l'économie chinoise. Il y a 40 ans, l'ancien président Deng Xiaoping déclarait que s'enrichir est glorieux, engageant la Chine sur les rails de l'économie de marché. Mais aujourd'hui, effectivement, le président Xi Jinping explique que faire du profit, c'est mal, surtout sur le dos des jeunes et des plus pauvres. Alors en surface, effectivement, le Parti communiste habille cette campagne, vous l'avez dit, de rectification d'un vernis socialiste. Il dit agir contre les inégalités en interdisant les cours privés très chers et qui concernaient 70% des élèves chinois. Interdire aussi les émissions de télévision qualifiées de vulgaires qui ne sont là que pour pervertir la jeunesse et faire de l'audience. Et limiter enfin au maximum les jeux vidéo qualifiés d'opium mental.
On voit que cette avalanche de nouvelles règles, ce virage à gauche, il se concentre sur la technologie et puis aussi les jeunes. Quelle est la logique, Stéphane ?
Alors, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est effectivement un virage à gauche. Le pays est malade de ses inégalités. 1% des Chinois les plus riches détiennent plus de 30% de la richesse nationale. Et cet enrichissement est passé par la constitution de puissants monopoles, notamment dans le secteur de l'Internet, qui échappe ou échappait encore à la régulation de l'État. Alibaba dans le e-commerce, Didi dans les VTC, Meituan dans la livraison à domicile ou encore Tencent dans les jeux vidéo. Tous se sont fait taper sur les doigts. La Chine, avec son milliard d'internautes et autant de données sur les utilisateurs, c'était un peu la jungle avec du profilage algorithmique, du pillage de données privées, tout cela sans aucun contrôle. Désormais en Chine, il y a une sorte de RGPD sur la protection des données, un peu comme en Europe, mais à ceci près que ces données sont désormais confiées à des entreprises proches de l'État chinois. Par exemple, Apple a dû confier son cloud, celui de ses utilisateurs chinois, à une société du gouvernement. Et donc l'État chinois régule, contrôle et il nationalise en quelque sorte toutes nos données Internet. C'est un formidable levier pour son contrôle de la population.
En effet, Stéphane Pambrin à Pékin, merci à vous.
Merci à vous.
Et merci aux débatteurs Christian Chavagneux et Laurent Bigorgne. On se donne rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine. Nous quittons la Chine pour revenir en Europe. Nous restons cependant dans le secteur de la tech et puis aussi avec cette question de la souveraineté. Notre invité est le leader européen du cloud. C'est le directeur général d'OVH Cloud. Bonjour Michel Paulin.
Bonjour Alexandra.
Le cloud, ça ne fait pas mal de mal de refaire le point, surtout pour moi. C'est le stockage de données, les dossiers, les fichiers, les photos, au-delà de ses propres ordinateurs, au-delà de son propre smartphone. Et ça n'est pas stocké dans un cloud, dans un nuage, mais dans vos 33 data centers, par exemple. Michel Paulin, est-ce que ce cloud, c'est un marché en hyper-croissance et surtout depuis la pandémie?
Alors, c'est déjà un marché en hyper-croissance et la pandémie n'a fait que accélérer une tendance très lourde de la digitalisation de l'économie. Mais il faut juste donner des ordres de grandeur.
Oui,
le marché du cloud aujourd'hui,
chiffres,
c'est 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires dès cette année. Ça va doubler dans les 5 ans. Et pour donner une analogie, le marché, rien qu'en Europe, du cloud, sera plus gros que celui des télécoms sur toute l'Europe. Donc on voit aujourd'hui que c'est un enjeu. Le cabinet KPMG a fait une étude. L'enjeu aussi pour l'emploi, c'est 500 000 emplois en Europe qui peuvent être créés en Europe, ou peut-être malheureusement ailleurs. Et là, on va certainement aborder d'autres sujets.
Bah justement, OVH Cloud, c'est vous. Vous êtes le leader européen, vous êtes l'espoir de l'Europe. Et je lis que vous hébergez un site français sur trois. Mais en creux, ce qu'on comprend bien, c'est que la majorité des données des Français et des Européens, elles sont chez un des trois mastodontes américains, par exemple, hein, Amazon, Microsoft, Google. Les Américains, ils ont déjà de l'avance, ils ont des solutions technologiques, ils ont des prix attractifs. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Michel Paulin, pour les Européens?
Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a vu que ce n'est pas parce que vous avez plus de moyens que vous gagnez une guerre. Et deuxièmement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont des enjeux économiques. On est là sur une société économie. Certains acteurs ont fait beaucoup d'argent en utilisant les données des autres. Mais il commence à y avoir des enjeux géopolitiques. On voit bien que la donnée aujourd'hui, c'est un axe de pouvoir qui est utilisé aujourd'hui. Si vous avez l'occasion, lisez le rapport du sénateur Gauvin. Mmh. Comment les Américains utilisent la donnée pour être une arme économique, pour casser des compétiteurs, pour avoir une influence et une force sur le marché. Mais maintenant, on voit de plus en plus que ça aussi une valeur éthique. Tout ce qui s'est passé sur tous anti-Covid, etc., sur le traçage des données. Vous avez parlé de la Chine. Comment les données sont utilisées aujourd'hui? Quelle est la conception de la RGPD, enfin de la protection des données individuelles en Chine? Et quelque chose qui devient très important.
Mais apparemment, ça n'a pas encore fait bouger, puisque vous êtes en effet un leader, mais toujours un petit poussé. En Europe, ça n'a pas fait bouger les mentalités. Les entreprises sont en train de bouger massivement depuis le cloud d'Amazon jusqu'à chez vous.
Mais c'est pour ça que nous militons pour un cloud ouvert, réversible et transparent.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est que aujourd'hui, le cloud, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et c'est géré par quelques mastodontes. Nous, on est dans le top 10 mondial. OVH Cloud, c'est
8e, c'est ça, à peu près?
On est 8e. Ouais. Ouais. Mais malheureusement, le seul européen. Et on est respectueux des valeurs européennes. Et en plus, quand vous prenez l'histoire d'OVH Cloud, hein, parce que c'est un fondateur, Octave Klabat, qui a une histoire personnelle extraordinaire et qui est très attaché à la notion de liberté, très attaché à ça.
C'est
un secteur où, Europe, il n'y a pas de régulation. Zéro régulation. Tous les autres continents ont régulé. La seule chose que l'Europe a fait, et il faut vraiment le dire que c'est un bien, c'est la RGPD, mais pas la RGPD conception chinoise, une RGPD qui essaie de protéger les données des personnes.
Non mais comment, Michel Paulin, d'accord, mais la question, soyez plus direct, comment on y arrive? Ce cloud souverain européen dont on parle, quelque chose, les données des Européens hébergées en Europe par un cloud européen, ça c'est un fantasme, il faut qu'on arrête de penser
non,
ça.
Non, c'est pas un fantasme, mais c'est
qu'est-ce qui bloque?
Ce qui bloque aujourd'hui, c'est l'exemplarité des grands groupes, de l'État, des doctrines, des réglementations. Il y a des grandes réglementations en cours qui sont avec Thierry Breton à la manœuvre pour être mises en œuvre en Europe. Aujourd'hui, tous les autres continents ont ces réglementations. Pourquoi on n'aurait pas une régulation sur le cloud? Donc je pense aujourd'hui qu'il est capital qu'effectivement ces réglementations soient mises en œuvre. La France a choisi une doctrine de l'État qui est très prometteuse.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ces règles. Ça veut dire que il faudrait que l'Europe dise, par exemple, que toutes les données des administrations doivent être dans un cloud européen. C'est ça.
C'est le cas pour la France déjà.
Pardon,
la France a annoncé que toutes les données qui sont dites sensibles, les données personnelles, les données qui concernent la santé, les données qui donnent les paiements, les choses comme ça, doivent être dans un cloud qui n'est pas soumis aux lois américaines.
Mais alors, par exemple, nos données de santé, le data, j'ai mal le dire, le data health hub, c'est chez Microsoft pour l'instant.
C'est chez Microsoft. C'est pour ça que la doctrine a été annoncée il y a quelques semaines. Et l'enjeu, et j'ai rencontré, parce que Cédric Haut, j'étais au FIC hier, avant-hier, je l'ai rencontré, j'ai dit que l'État doit être exemplaire. Il y a des grands appels d'offres aujourd'hui qui sont en jeu. Est-ce que l'État va respecter, est-ce que toutes les directions informatiques de tous les ministères vont respecter ce qui est la doctrine de l'État? Mmh. Pas encore dans la loi, mais dans la doctrine. Et j'ai envie de dire que ce sera les prochaines semaines, les prochains mois seront capitales. Parce que ce sera là qu'on verra si effectivement l'Europe et la France respectent ce qu'ils pensent être primordial. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Maintenant, il faut arrêter d'analyser le diagnostic. Il faut agir. Et pour agir, il faut faire ce que font les autres. Si nous voulons garder notre souveraineté, et la souveraineté c'est la liberté de choix, eh bien c'est de faire en sorte que oui, les acteurs européens doivent être protégés et doivent être mis en avant pour le bien des citoyens et des économies.
Et cependant, vous faites des alliances, vous, les acteurs européens. Il y a Orange qui fait alliance avec Microsoft, vous, OVH, avec Google. On a du mal à comprendre.
Non, parce que je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on ne pense pas que la souveraineté, c'est du souverainisme ou du protectionnisme. Mmh. En revanche, si vous prenez notre accord avec Google, c'est un accord qui ne fait aucun compromis sur la souveraineté des données.
Bien.
C'est comme si vous disiez, j'ai une voiture, mais j'ai le pneu qui est un pneu qui vient d'un pays étranger. Mmh. Bien sûr, il faut être responsable, il faut être ouvert. Mais clairement, il n'y a aucun compromis sur la souveraineté des données.
Michel Paulin, vous avez cité le FIC, vous avez dit j'ai été au FIC, c'est le Forum International sur la Cybersécurité. On va en parler de ce risque, les cyberattaques, elles ont été multipliées par 4 en 2020. Je vous propose d'écouter ensemble le reportage et puis on se retrouve ensuite.
Troisième étage.
Je vous en prie à gauche.
Merci. Je vous suis.
Oui.
Voilà, on se trouve dans votre bureau, Frédéric Barroger. On peut dire où on est ou...
À Lille, près du centre-ville, pas très loin de la mairie, du Beffroi.
Voilà, vous êtes le directeur de la DSI, la Direction des Systèmes d'Information au Conseil du département du Nord.
C'est exact.
Alors, vous avez été victime d'une cyberattaque. Ça s'est passé quand ?
Alors, ça s'est passé en juillet 2020.
Donc, ça fait un an.
C'est ça.
Il était quelle heure ? Quel jour ?
Alors, en fait, ça s'est passé entre le 5-6 et 15 juillet. J'étais déjà en congé.
Ah, vous étiez en vacances ?
Oui, j'étais en congé.
Alors, vous recevez un coup de fil, on vous appelle, c'est alerte ?
On m'appelle en urgence en disant, Frédéric, on croit qu'on a là une attaque massive, puisque entre le 5-6-7 juillet, on a un nombre de mails très important qui arrive sur les boîtes aux lettres des agents, mais surtout, il y a un phénomène, un virus qui se déclenche, qui prend le contrôle de la boîte aux lettres et qui renvoie à tout le carnet d'adresses de la boîte aux lettres en question le même mail pour prendre le contrôle des boîtes aux lettres et envoyer ce qu'on appelle du spam. Et là, c'est d'abord une dizaine, puis après une centaine, puis après un millier, et en fait...
Un millier de messages ?
Un millier de messages, puis après des centaines de milliers. Dans les premiers temps, là, on voit que c'est une activité qui, a priori, ne fait que prendre des messages et réutiliser la boîte mail pour en envoyer plein à tout le carnet d'adresses. Mais on voit que ce virus, il est en train de se répliquer, il est en train de se copier.
Et avec quelles conséquences ?
Alors, en fait, aucune conséquence immédiate, visible. On ne voit rien. Donc, c'est là qu'on se décide de déclencher vraiment une crise majeure. On a mis le département sous cloche pendant tout le week-end du 14 juillet. On n'allait plus avoir aucune activité pendant le week-end du 14 juillet.
Il ne faut pas me connecter.
Exactement. Là, on pouvait accéder à des pages, mais tout ce qui était activité logicielle, on l'a mis sous cloche.
Et donc, vous avez réussi.
Et on a réussi, oui. On a réussi.
Alors, Frédéric, vous avez dû avoir peur que ça touche... Je sais pas, le département s'occupe quand même de beaucoup de choses. Quoi, les collèges ?
C'est les collèges. C'est aussi... on a des millions de données personnelles, des données de santé, des données financières, évidemment des données sociales, pour les allocations, l'accompagnement, les placements d'enfants. Ça aurait eu un impact extrêmement fort.
Quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ?
En fait, vous bloquez un serveur avec les noms et des dossiers des personnes pour une allocation sociale. Et quand ils veulent vous interroger, vous n'êtes plus en capacité de pouvoir le voir, ni savoir s'ils sont bien inscrits, ce qu'ils ont, ou même de continuer à créer leur dossier. Vous voyez, là, c'est plus de 2 millions de mails qui ont été envoyés à toute la France, hein, entre le 4 et le 6 juillet. On doit être à... plus de 40, 50 attaques.
Par jour.
Tout à fait. Des petites attaques, hein, mais c'est des attaques quand même. C'est une lutte de tous les jours.
Ça doit être épuisant nerveusement aussi. Hein.
C'est pour ça que vous voyez, il y a du café de Doliprane.
Café Doliprane.
En juillet 2020, les habitants du département du Nord ont donc sans doute échappé à de gros désagréments. Vous connaissez le point commun entre les patients de l'hôpital d'Arles, les automobilistes de la côte Est des États-Unis et les clients des supermarchés suédois Coop. Eh bien, ces derniers mois, tous ont été les victimes indirectes de pirates du numérique, avec par exemple des vaccinations retardées, des stations-service par ravitaillier ou encore des supérettes fermées parce que les caisses enregistreuses sont empêchées de fonctionner. La menace grandit, elle est prise très au sérieux de la Maison-Blanche à l'Élysée et puis aussi à Lille où s'est donc tenu cette semaine le Forum international de la cybersécurité. On n'arrête pas l'écho, il y a dépêché sa reporter, Anaëlle Verzo, et son micro.
Alors là, Alexandra, je suis un petit groupe d'hommes en costume. Il y a une vingtaine de personnes là devant moi. Et je pense qu'ils se rendent au forum. Voilà, je viens d'arriver devant le Grand Palais à Lille. Je me trouve pour le Forum international de la cybercriminalité. Et le thème cette année, c'est pour une cybersécurité coopérative et collaborative. Bonjour. Alors avant de rentrer, il faut présenter le pass sanitaire.
C'est bon pour moi, vous pouvez y aller.
Me voilà au milieu de nombreux stands. Le stand de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Antemeta, défions les cyber-risques maintenant. Exatrust, le leader européen du cloud et de la cybersécurité. C'est assez immense, hein. Alors là, on se dirige vers le stand de la gendarmerie. Et là, je vois sur un ordinateur, il est écrit consultation de la note de rançon. Demande de rançon. Pardon, je peux prendre votre prénom ?
Oui, Florent. Je suis un enquêteur en cybercriminalité et plus particulièrement donc aux atteintes au système de traitement automatisé des données et au sein du C3N.
Donc, C3N, c'est quoi ?
Donc c'est le centre de lutte contre les criminalités numériques.
D'accord. Et donc là, on est devant un écran d'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe quand je suis victime d'une attaque ?
C'est une démonstration d'attaque ransomware, donc par exemple avec de ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire des mails que vous recevez, où vous ouvrez des mails malveillants que vous recevez sur votre boîte mail.
Là, on a reçu un mail.
Vous avez le mail. Et ça vous invite soit à ouvrir une pièce jointe, soit à cliquer sur un lien.
Donc là, vous venez de cliquer pour ouvrir le document Word et il y a écrit exécution du fichier infecté.
Voilà, regardez, là, on clique, exactement. Et vous voyez que tous les fichiers qui sont présents deviennent chiffrés.
Donc là, en fait, il y a plein de fichiers qui sont sur l'écran, qui se sont affichés. Okay. Comme si vous aviez enregistré des fichiers sur votre bureau d'ordinateur. Et là, les fichiers, ils sont nommés avec des tas de chiffres.
C'est ça.
Que vous n'avez pas choisi.
Non, que vous n'avez pas choisi. Et en fait, vous ne pouvez plus du tout accéder à vos données. Sur votre PC va apparaître un fichier texte, c'est-à-dire un fichier avec des phrases écrites.
Et donc, c'est une petite icône qui s'est affichée sur le bureau de votre ordinateur, qui est une icône rouge. On ne peut pas la louper, quoi.
Quand nous l'ouvrons, nous constatons donc ce qu'on appelle la note de rançon, qui vous explique que vos fichiers ont été chiffrés, que vous avez été attaqué, et qui vous invite à payer la rançon, d'où le nom du virus, le ransomware.
Et là, il y a trois icônes. En dessous du petit texte qui vous dit « il faut payer maintenant », il y a un verrou fermé, un B qui est comme un dollar, mais en fait c'est un bitcoin, c'est ça si je comprends bien, et une tête de mort. Et bitcoin, ça veut dire qu'il faut payer en bitcoin.
Les paiements de rançon se font globalement en crypto-monnaie, principalement en bitcoin, effectivement.
Ça oscille entre 1, 2 BTC, donc bitcoin, à parfois plusieurs centaines, plusieurs millions de dollars.
Et un bitcoin, ça fait combien ?
Alors aujourd'hui, on doit être aux alentours d'une 30 000 dollars, c'est ça ?
Ah oui, donc quand vous dites un bitcoin, ça paraît rien du tout, mais en fait, c'est beaucoup d'argent.
Donc imaginez, quand on vous demande 100 BTC, ou voire même plus.
C'est ces sommes-là qui sont demandées, quoi ?
Ce sont des sommes qui sont demandées en fonction des types de ransomware, puisque les ransomware sont classés par famille, et certains ransomware sont connus, justement, pour demander de grosses sommes. On a plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars qui sont demandés, par exemple, aux États-Unis pour certaines attaques. Après, ils vont moduler cette rançon souvent en fonction du chiffre d'affaires de la société, puisque comme ils auront pénétré la société depuis quelques semaines, ils auront connaissance de celle dernière, son chiffre d'affaires, éventuellement des données sensibles qu'ils auront pu exfiltrer, et de facto, ils auront connaissance de la valeur qu'ils vont pouvoir monnayer. Donc ça peut être 10, 20, 30 millions de dollars, ça dépend.
Le FBI, dans son Internet Crime Report, a calculé ce que les pirates ont pu engranger l'année dernière, entre 100 000 et 120 000 milliards d'euros. En France, en 2020, 9 organisations sur 10 ont été la cible d'au moins une cyberattaque. Et lorsqu'il y a une demande de rançon, 20% paieraient. Est-ce judicieux ? Guillaume Tissier dirige l'entreprise spécialisée en cybercriminalité, Avisa Partners. J'ai rendez-vous avec lui, quelque part, dans les allées du forum. Terra Nova Security, Naval Group, Varonis, vos données, notre mission, Thales, ou du monde, hein. Universal Privilege Management. Je suis en train de traverser le forum, espace recherche. On s'est perdu dans le forum. Bonjour, bonjour monsieur.
Voilà, j'ai enfin trouvé Guillaume Tissier, qui est aussi le co-organisateur de ce forum.
On se dirige vers une salle de conférence plus calme. Je lui résume ce que vient de nous dire le gendarme sur les cyberattaques avec demande de rançon.
Évidemment, il est fortement déconseillé de payer. Il est fortement déconseillé de payer parce que d'une part, vous encouragez le phénomène. D'autre part, vous n'êtes jamais sûr de toucher ensuite la clé de déchiffrement vous permettant de déchiffrer les fichiers. Et quand bien même vous la touchez et que le pirate est à peu près honnête, cette clé de déchiffrement ne fonctionne pas toujours. Et d'autre part, vous aurez de toute façon les frais de gestion de crise à intégrer puisque quand bien même vous allez payer, vous allez déchiffrer vos données, vous aurez à corriger les failles de votre système d'information parce que rien ne vous garantira autrement que le pirate ne reviendra pas.
Est-ce que vous savez s'il y a déjà eu des faillites d'entreprises à cause d'une cyberattaque ?
Oui, on a effectivement des exemples de faillites d'entreprises, notamment de petites entreprises qui n'ont pas réussi à redémarrer après des attaques. Et c'est vraiment aujourd'hui des attaques qui sont très déstabilisantes pour les entreprises. Et autre point très important, il faut que ces entreprises portent plainte.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte de porter plainte ?
Alors, ces plaintes ne débouchent pas toujours. On a simplement 15% des plaintes qui débouchent. Néanmoins, c'est indispensable d'un point de vue assurantiel. Ça couvre déjà les frais de gestion de crise. Ça couvre donc les frais que vous engagez avec un avocat, avec une société, un prestataire informatique qui va vous aider à restaurer vos données. Ça peut couvrir dans certains cas, et là c'est un sujet assez polémique sur lequel il y a beaucoup de débats, ça peut couvrir le paiement des rançons, et ça peut couvrir aussi évidemment les pertes d'exploitation qui pourraient résulter de l'attaque.
Une assurance qui va payer le règlement de la rançon, j'imagine que c'est une assurance qu'on va payer soi-même assez cher, non, par mois, enfin...
C'est tout le sujet, l'assurance cyber est un sujet en tant que tel. Le vrai sujet, c'est qu'on est sur un risque qui est systémique, qui est encore mal connu, et sur lesquels, effectivement, les assureurs ont souvent des difficultés à tout couvrir, tout simplement parce que le montant global de ce qu'ils auraient à payer en cas de sinistre peut être supérieur au montant des primes collectées. Donc on a un vrai sujet sur l'assurance cyber. Elle est absolument essentielle. Simplement, il faut savoir exactement à quoi on s'assure, face à quoi on s'assure, et quels sont le montant des couvertures. Et je dirais que c'est un débat qu'on a chaque année sur ce forum, parce que le sujet, en l'occurrence en Europe, n'est pas encore complètement mature.
Cyberattaque, la menace s'intensifie. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et le directeur général d'OVH Cloud et l'invité du Mag Echo, Michel Paulin. Vous avez 33 data centers, 400 000 serveurs sur 4 continents. Est-ce que les cyberattaques, c'est votre peur quotidienne ?
Oui. Aujourd'hui, les cyberattaques, c'est plus qu'une réalité. C'est une obsession. Parce que tout le monde est attaqué. Alors peut-être que vous vous rendez pas compte, mais toutes les entreprises, tous les acteurs informatiques aujourd'hui sont attaqués systématiquement. Il y avait dans le reportage le nombre d'attaques journalières, c'est le cas, et donc c'est important. Sachant qu'il y a des attaques plus ou moins anodines, mais il y a aussi des attaques qui sont des attaques d'État, et des attaques qui sont d'escrocs ou de pirates, mais moi j'aime pas tellement le mot pirate, parce que ce sont des bandes organisées.
C'est une industrie.
C'est une industrie, c'est une bande organisée sur des mafias.
Et quand le président américain Joe Biden dit en substance qu'une cyberattaque, ça pourra conduire un jour à une vraie guerre à balles réelles, quand des experts disent « nous on redoute le 11 septembre numérique », qu'en pensez-vous ? Ils ont raison ?
Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience, se protéger, c'est compliqué parce que c'est un jeu de chat et de souris qui sont extrêmement difficiles. Technologiquement, c'est très complexe, il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est pas quelque chose d'anodin. Mmh. C'est quelque chose qu'il faut prendre. Et vous avez vu qu'il y avait des très grands éditeurs de logiciels parmi les plus gros éditeurs de logiciels américains qui n'arrêtent pas tous les jours d'annoncer qu'il y a des vulnérabilités pendant des années et qu'il y a des faiblesses. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être déterminé à lutter contre ça et il faut mettre tous les moyens. Nous, on a une équipe dédiée 24 heures sur 24 qui est en permanence en train d'analyser et travailler avec l'ensemble des services, compétents de l'État, mais également des autres États pour s'assurer est-ce qu'on ait le meilleur moyen de protection. Mais ne prenons pas d'illusions. Aujourd'hui, ça évolue tellement vite qu'il faut être dans une vigilance et continuer à investir.
On n'est pas encore assez armé.
Là, je pense qu'il commence à avoir une prise de conscience comme quoi c'est un risque majeur, même parfois, comme on l'a vu dans le reportage, de perte d'exploitation, de faillite. Souvent, la cybersécurité s'était vue comme une dépense. Aujourd'hui, c'est un investissement. Si les entreprises n'investissent pas dans la cybersécurité, eh bien, leur activité peut s'arrêter. C'est aussi important que d'autres secteurs d'investissement. Mmh. Et c'est pas une forme d'assurance uniquement. J'ai entendu parler de l'assurance de la cybersécurité, c'est bien, mais ça va beaucoup plus que là. Et aujourd'hui, les données ont une telle valeur Et surtout, le système numérique est tellement important et tellement vital que vous arrêtez l'économie. On n'arrête pas l'économie, c'est votre titre. Ben là, on l'arrête.
Michel Paulin, il y a un autre risque dont je vais vous parler, parce qu'il y a 6 mois, on est quasiment jour pour jour, hein, un de vos centres a été ravagé par un incendie. Ça s'est passé à Strasbourg. On peut faire le bilan maintenant. Combien, c'est important, on se dit le cloud, les données. Combien de vos clients ont perdu définitivement leurs données dans cet incendie?
Alors aujourd'hui, on a eu 120 000 services qui ont été affectés par cet incendie.
Qu'est-ce que ça veut dire, service?
Parce que en client, c'est pas tellement... vous avez un client qui peut avoir un petit client qui a un service, et vous avez un client qui peut avoir des dizaines ou voire des centaines de services. Donc on parle plutôt en nombre de services. On a eu 120 000 services qui ont été impactés. Et aujourd'hui, on a presque 1 000 clients qui ont perdu des données.
La leçon, c'est que les données n'étaient pas assez sécurisées.
Non,
le cloud n'est pas safe. Le cloud n'est pas, comment
dire,
sûr.
Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Le cloud, d'abord, c'est physique. C'est pas virtuel, ça se passe pas, on croit que le cloud c'est quelque chose dans les nuages. Non, c'est physique, c'est du hardware, c'est des serveurs, c'est des bâtiments, c'est des choses comme ça, c'est de l'électricité, hein, parce que une des raisons pour lesquelles on a été affecté, c'est que les pompiers nous ont demandé d'arrêter l'électricité à quelques kilomètres autour du site, et d'un seul coup tout s'est arrêté. Mmh. Et donc pour des questions de sécurité, hein, heureusement on n'a eu aucun, et c'était le plus important pour nous, 0 blessé. Mais il faut comprendre que le backup, hein, dans l'industrie, c'était une option.
Le backup, ça veut dire
justement les données. Le fait que vous ayez un système de backup, ce qu'on appelle, vous allez avoir vos données qui sont sur le serveur. Le serveur est détruit et vous voulez avoir, eh bien, un disque dur à côté qui va être exactement les données.
La sauvegarde.
Cherchez le mot. Vous avez tout à fait raison. Toutes mes excuses pour les sauvegardes.
Donc, qu'est-ce qui a changé maintenant?
On va offrir maintenant les sauvegardes directement, sans option, dans le service. Parce que on a compris que les clients avaient une ambiguïté sur ça. Ils pensaient que parce que c'était dans le cloud, toutes les sauvegardes étaient faites automatiquement. Et qu'il y avait mécaniquement, systématiquement. Or, c'était une option. Parfois, une option à 1 euro ou 2 euros par mois. C'est vraiment très, très peu. Mais en particulier, ceux qui ont été le plus touchés, c'est les petits clients. Parce qu'ils ne comprenaient pas ces notions de backup et la fameuse règle des 3-2-1 qu'il faut, c'est comme la cybersécurité, 3 backups sur 2 modèles, 2 technologies différentes, dont un, comment dire, qui est dans un lieu différent de celui où vous avez vos données.
Ah oui, c'est ça la bonne règle pour sauvegarder ces données.
C'est une règle première sur la notion de sauvegarde. Et donc là, nous, on a pris la décision, Octave avait d'ailleurs indiqué, que désormais, on commence par la France. Nous sommes en train de construire ce qu'on appelle un data center bunker en France, dans lequel il ne fera quelque part, on ne dira même pas où il est, et toutes les données de nos clients seront systématiquement backupées pour être sûr que justement, s'il y a un incident quelque part, ils puissent le faire. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur les services de restauration des services. Et donc, on travaille avec des partenaires, avec des intégrateurs, avec des sociétés qui sont avec nous, pour aider les clients dans ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité.
Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud, qui a donc tiré les leçons de cet incendie assez grave il y a 6 mois. Merci d'avoir été l'invité d'On n'arrête pas l'écho.
Merci beaucoup.
Allez, c'est l'heure de ma vie au boulot, ou pas en fait, Sandrine Foulon, puisque nous sommes à peine rentrés, que vous nous parlez d'absentéisme. Il est en hausse, cet absentéisme. Qu'est-ce que ça nous dit de notre morale et de notre santé?
Eh bien Alexandra, ça nous dit déjà que la pandémie est passée par là. Le dernier baromètre du cabinet Grâce à Voix, Willis Tower Watson, explique que le taux d'absentéisme a progressé de 20% par rapport à 2019. Un tiers des salariés ont été arrêtés au moins 3 jours l'an passé. Ce sont les personnes vulnérables et les gardes d'enfants qui ont surtout contribué à cette hausse des arrêts maladie. Les femmes sont toujours les plus absentes, mais en 2020, c'est l'absentéisme des hommes qui a le plus grimpé. Une enquête du groupe Malakoff Humanis constate une autre évolution inédite. Au cours des 6 premiers mois de cette année, ce sont les managers qui ont davantage raccroché les crampons que les salariés. 23% de ces cadres se sont arrêtés contre 13% pour les non-cadres.
Alors là aussi, Sandrine, on peut supposer que les cadres en télétravail ont dû plus que d'habitude poser des jours pour garder les enfants.
Oui, ça a joué, mais l'étude montre qu'il n'y avait pas cet écart en 2020, alors que la pandémie prenait tout le monde de court. Un an plus tard, les salariés ressentent une grosse fatigue, et particulièrement les managers. Ils ont dû gérer leurs équipes à distance, absorber le stress des collaborateurs et contrôler le leur. La Fédération des cadres ingénieurs et techniciens de la CGT a publié lundi sa seconde enquête sur le travail confiné. Elle confirme cette dégradation des conditions de travail 45% des 15 000 personnes interrogées se disent en alerte dépressive. Plus de la moitié des managers constatent une détérioration du collectif, des temps informels, de la qualité des réunions. Le télétravail reste plébiscité par une écrasante majorité des sondés, mais il faut l'encadrer, en finir avec le Far West, nous dit la CGT. D'autant que ce mode d'organisation va perdurer et selon l'enquête, seuls 10% des répondants sont assis sur des sièges ergonomiques. Plus de la moitié n'ont pas d'écran adapté. Du coup, 40% des personnes interrogées disent souffrir de troubles musculo-squelettiques ou de migraines ophtalmiques. Tout ça n'est pas très bon pour l'absentéisme. Mmh. Dernier indicateur inquiétant, les salariés malades qui continuent quand même à aller travailler sont deux fois moins nombreux que l'an passé. Preuve qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. Ouvrir le débat sur les augmentations de salaire, c'est bien. Mettre les conditions de travail sur la table, c'est pas mal aussi.
Et sinon, ça va, vous sentez une foulon?
Absolument.
On espère que vous serez là la semaine prochaine. Sandrine Foulon, ma vie au boulot, les questions, c'est à onarretepasleco@radiofrance.com ou bien vous pouvez aussi passer par la page de l'émission. Merci à toute l'équipe, Valentin Pérez qui prépare le mag avec moi, la réalisatrice Cédrine Hilla et puis à la technique ce matin, nous avions Sybille Clamence et Julien Dumont. Vous pouvez réécouter le mag écho en podcast, retrouver des extraits de l'émission sur les réseaux. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end.